Ah, c'est plutôt une bonne idée.
Après, ça dépend. Enfin,
Ça dépend au niveau humain où est-ce qu'il veut mettre les personnes.
C'est génial.
Les élections municipales approchent et Radio Campus Angers va vivre au rythme de la campagne.
Je vous relance la question.
Du 24 au 28 février et du 10 au 14 mars, chaque candidat à la mairie sera l'invité du sous-marin de 19h à 20h.
C'est bien beau de dire qu'on embauche les jeunes.
Valentin et Pierre-Antoine sont allés demander aux étudiants ce qu'ils pensaient de cette proposition.
Ça va être difficile à appliquer.
Épluchage de programme, micro-trottoir, réponse aux questions des auditeurs. Nous passons en mode électoral.
Vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu majoritairement consacrée aux élections municipales. Entrez sans crainte, notre sous-marin est encore mieux que s'il était jaune. Vous pouvez l'entendre lorsqu'on branche les hydrophones, c'est-à-dire tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi de 19h à 20h et exceptionnellement aujourd'hui, mercredi, municipal oblige. Je suis Tiffaine et à mes côtés en ce mercredi donc, Pierre-Antoine, salut.
Bonsoir.
Et avec la participation enregistrée de Lohan Green pour son artefact que vous entendez habituellement dans l'artichaut un mercredi sur deux. Comme chaque jour, vous retrouverez l'agenda et la bulle sonore à la fin de ce sous-marin. Tout le monde est à son poste. C'est parti. Et on commence donc ce sous-marin avec un billet d'humeur, celui de Pierre-Antoine.
Mais quelle mouche a piqué les ténors de l'UMP ? Les voici qui s'égosillent, qui se lamentent, les voici qui s'égosillent, et pourtant on ne voit vraiment pas pourquoi. C'est sûr qu'en ce moment, le grand patron est accusé de favoritisme avec la société Big Malion, le gourou de la droite décomplexé n'est qu'un vulgaire espion, et le sauveur, celui que tout le monde attend en 2017, est soupçonné de trafic d'influence. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Le Monde de samedi dernier. Elle souffre l'UMP, hein. Ses trois meilleurs chevaux, Copé, Fillon et Sarkozy, perdent chacun 6 points de popularité dans un sondage IFOP publié hier. Mais ils ont au moins réussi à l'UMP, à grands coups de communication, de présence sur les plateaux télé, de communiquer, de petites phrases. Ils auront réussi à convaincre l'opinion que le plus grave, ce n'est pas tellement les magouilles, mais bien le fait de les avoir révélées. En première ligne, les médias, responsables de ne pas avoir su garder le secret au chaud. Et puis la justice, une justice partisane, c'est sûr. Vous comprenez, des juges qui enquêtent sur Sarkozy et qui le mettent sur écoute, c'est tout à fait inacceptable. Imaginez qu'ils trouvent quelque chose. Enfin, de toute façon, c'est un coup de la gauche, et surtout du gouvernement. Il doit y avoir un cabinet noir à l'Élysée qui dévoile petit à petit les affaires aux médias, qui sont bien entendu aux ordres. Rappelons qu'une de ces boules puantes, comme les appelle Claude Guéant, a été lancé par le pure player Atlantico, média pourtant peu réputé pour son inclinaison à gauche. Et lorsque le Premier ministre passe à la télé pour expliquer que le gouvernement savait que Sarko était écouté, l'UMP s'offusque de plus belle et demande une commission d'enquête, des explications à Hollande ou encore la démission de Christiane Taubira. Et pour finir, notre vieille amie Nadine Morano, qui avait pourtant épargné nos oreilles et nos yeux depuis quelques temps, en remet une couche. La voilà qui tweet « Le syndrome Cahuzac attend le gouvernement ». Taubira, Valls, Hérault, Hollande s'arrangent avec la vérité et mentent publiquement. Allez Nadine, entre nous, écoute un peu le bon conseil de Jean-Pierre Raffarin.
Et ma chère Nadine qui est en face de moi, qui est en train de tweeter, auquel je demande d'arrêter.
Merci Pierre-Antoine pour ce billet d'humeur du mercredi. Après avoir reçu Frédéric Béat, Christophe Béchu, Laurent Géraud, Jean-Luc Rotureau, Gaëtan Diran et Marie-Josée Falligan, nous continuons notre série spéciale municipale. À la fin de cette semaine, nous aurons donc accueilli les 9 candidats aux élections. Cet après-midi, nous avons reçu Hubert Lardeux dans nos studios et nous l'avons interviewé avec Rémi et Pierre-Antoine. Il a déposé sa liste complète une semaine tout pile avant la clôture définitive des dépôts en préfecture. Cet ancien directeur d'école s'était déjà présenté aux élections, mais c'était pour les législatives en 2012, pour le Parti ouvrier indépendant. C'est avec cette même bannière qu'il mène en 2014 et au municipal la liste contre les politiques d'austérité pour la République et la démocratie, à gauche toute. Bonjour Hubert Lardeux.
Bonjour.
Alors vous êtes présenté aux élections municipales de Jarzé en 2008, aux élections législatives en 2012. Vous avez échoué aux deux, vous n'avez pas peur d'une nouvelle défaite ?
Non, pas vraiment, puisque l'objectif à chaque fois dans ces élections, c'est de développer une orientation politique. Et à un moment donné, de regrouper autour de cette orientation, ça ne se concrétise pas forcément par une élection.
Alors hier, nous recevions ici Marie-Josée Falligan qui mène la liste de lutte ouvrière. Et j'aimerais vous poser la même question qu'on lui a posée hier. Pourquoi ne pas avoir fait front commun avec Martin Niveau et Marie-Josée Falligan ?
Alors c'est une question qui revient relativement souvent, puisqu'on nous dit il y a trois listes à gauche de la gauche. Alors je voudrais indiquer d'une part que pour ce qui nous concerne, le titre de notre liste est assez explicite, puisque nous prononçons contre les politiques d'austérité. Les politiques d'austérité, ce sont celles de droite comme de gauche, Et de ce point de vue-là, nous nous différencions quelque peu des autres listes, à gauche de la gauche, puisque nous annonçons d'ores et déjà qu'au deuxième tour, nous n'appellerons à voter pour aucune liste de droite ou de gauche.
Mais vous n'êtes pas à gauche de la gauche ?
Non, on ne se situe pas à gauche de la gauche, on se situe comme le rassemblement de militants, de syndicalistes, de salariés, qui aujourd'hui considèrent qu'il faut effectivement une politique de rupture avec les politiques d'austérité, et de ce point de vue-là, ce n'est pas être à gauche de la gauche.
Vous êtes où ?
Nous sommes à notre place, c'est-à-dire, en tant que tel, à la recherche d'un regroupement politique qui permette de rompre véritablement avec les politiques menées maintenant depuis des années.
Et vous n'êtes pas quand même plus à gauche qu'à droite, Hubert Lardeux ?
Ah, si vous voulez, de ce point de vue-là. Mais la détermination droite et gauche, vous savez, elle date de l'Assemblée nationale au moment de la Révolution française, et elle était relativement géographique. En politique, c'est pas vraiment la géographie qui compte.
Bon, alors pourquoi voter pour votre liste plutôt que pour celle de Martin Niveau, alors que quand même, j'insiste, vous vous rejoignez sur de nombreux points, comme par exemple cesser de donner de l'argent public aux entreprises, pour la gratuité des transports publics, contre la construction d'une nouvelle patinoire, ce sont quelques exemples, mais il y en a d'autres.
Oui. Alors écoutez, se différencier d'une autre liste, c'est toujours un petit peu compliqué, puisque ce qu'on demande aux électeurs, à un moment donné, c'est d'apprécier eux-mêmes ce qu'ils considèrent comme étant la liste pour laquelle ils vont voter. Néanmoins, je peux indiquer très simplement, il y a de fortes chances que la liste de Martin Niveau appelle à voter au deuxième tour pour la liste de gauche arrivée en tête, que ce soit M. Béatz ou M. Rotureau, ce ne sera pas notre cas. Voilà toute la différence.
C'est l'unique différence ?
Oh, c'est pas l'unique différence, mais disons c'est la principale et celle qui compte à mes yeux aujourd'hui dans la situation présente.
Mais en termes de projet, est-ce qu'on est d'accord pour dire que vous êtes quand même plutôt d'accord ?
En termes de projet, si vous voulez, la situation par rapport à la municipalité d'Angers est celle de toutes les municipalités en France. C'est-à-dire que la question de l'emploi ne se pose pas en termes de ce que pourrait faire un maire véritablement, puisqu'il a très peu de marge de manœuvre. Il a des marges de manœuvre sur la question de l'emploi public, notamment.
On y reviendra tout à l'heure.
Donc là, effectivement, on peut sans doute se rapprocher, mais l'enjeu véritable, et aujourd'hui de combattre la politique gouvernementale qui est aux ordres de l'Union européenne. Je vous rappelle que pas plus tard que la semaine dernière, l'Union européenne a indiqué qu'elle allait mettre la France sous surveillance rapprochée. Et de ce point de vue-là, ça a des conséquences directes du point de vue des finances des municipalités, des collectivités locales, puisque ce sont pas loin de 15 milliards en tout d'euros qui vont être diminués des dotations subventions. Ce qui veut dire très prochainement pour une ville comme Angers, de l'ordre de 25 à 30 millions d'euros de diminution de dotation subvention.
J'ai peut-être mal compris la réponse, mais je crois que vous n'avez pas répondu à ma question, la différence, vos différences entre Martin Niveau et les différences entre Martin Niveau et Hubert Lardeux en termes de projet.
En termes de projet, je vous le rappelle, c'est une question fondamentale de rupture avec la politique dictée par l'Union européenne, de réduction des dépenses publiques et donc de remise en cause de l'ensemble des acquis sociaux tels qu'ils existent aujourd'hui, que ce soit la sécurité sociale, la question de l'emploi, la question de l'ensemble des salaires, la baisse des salaires par la baisse du coût du travail.
On va passer tout de suite aux propositions du Parti ouvrier indépendant, Hubert Lardeux. Et comme nous sommes sur Radio Campus Angers, nous ciblerons forcément les propositions destinées à la jeunesse, à l'emploi ou encore à la culture. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un tiers de la population a moins de 25 ans à Angers. Qu'est-ce que vous leur proposez de concret et réalisable ?
Ah, écoutez, d'une part, par rapport à la jeunesse, le principal problème pour ce qui concerne l'ensemble de ces jeunes qui sortent du système scolaire, avec ou sans diplôme, c'est la question de l'emploi. Donc, nous nous différencions quelque peu de beaucoup de listes ou d'une politique nationale qui consiste à ne proposer que des contrats précaires, 10 contrats aidés à beaucoup de jeunes. Nous considérons que il faut créer les emplois. Je prendrai un seul exemple. La ville d'Angers s'est engagée dans un dispositif de réforme des rythmes scolaires. Elle a mis en place des activités dites périscolaires et elle a réussi à employer un certain nombre de personnes en contrats précaires. Pour notre part, et bien que nous serions en désaccord total d'ailleurs avec cette politique des nouveaux rythmes scolaires, on pourra y revenir peut-être, en tout état de cause, l'emploi public pour nous, ce sont d'abord des emplois statutaires, un vrai salaire.
Justement, Hubert Lardeux, nous sommes allés demander aux Angevins ce qu'ils pensaient de cette proposition.
Oui, il y en a quand même pas mal aujourd'hui, des emplois publics. Créer des emplois, oui, public, je sais pas, parce que au niveau public, on a une sécurité de l'emploi qui, c'est sûr, qui est beaucoup plus importante. Mais on s'enlise là-dedans et les gens se défendent grâce à ça. Et ensuite font du zèle. Enfin, on n'a pas. Moi, je pense que au niveau des licenciements et autres, il faut pouvoir aussi au niveau public avoir les mêmes libertés qu'au niveau privé.
Ça dépend dans quel domaine. Police, oui. Hôpitaux, oui. Après, dans les ministères, je pense pas. Dans les mairies, je pense pas. Voilà, dans les collectivités locales, je pense pas.
Pourquoi ?
Bah, parce qu'après, voilà, j'ai travaillé là-dedans, j'ai fait des stages et voilà, il y a beaucoup de postes inutiles à mon goût. Donc non, je pense que voilà, ça sert à rien, quoi.
Rémi.
Alors justement, Hubert Lardeux, dans quel domaine souhaitez-vous créer des emplois publics statutaires pour répondre à cette jeune fille ?
Bah écoutez, le service public, ce sont des emplois publics. Voilà, la définition, là où on crée des emplois publics, c'est dans le cadre du service public. Pas d'un service au public, qui tend aujourd'hui à apparaître comme notion. Le service public, c'est l'ensemble des services qui sont destinés effectivement à favoriser le bien-être, la vie dans la commune de manière beaucoup plus intéressante. Et donc, vous avez les services publics, vous avez l'école, vous avez la sécurité sociale, tous les services municipaux qui sont ceux de la voirie, etc. Donc, qui facilitent à un moment donné la vie au quotidien de l'ensemble des salariés et des citoyens.
Et alors, comment est-ce que vous comptez financer ces emplois publics ?
Mais écoutez, ces emplois publics, ils sont financés d'une part par les impôts qui sont perçus par les communes et par les dotations, subventions qui sont reversées par l'État. Et donc, vous pointez effectivement une situation particulière dans le cadre de la diminution des dotations, subventions qui sont mises en œuvre dans le cadre de la politique d'austérité conduite aujourd'hui. Mais il y a bien d'autres économies à faire par ailleurs, dans des dépenses dites par exemple de marketing, comme l'indique Monsieur Beatz, où je pense que l'on pourra dégager un certain nombre de sommes permettant à un moment donné de créer ces emplois publics, de renforcer le service public, je pense par exemple à la question des transports, ou tout simplement même remunicipaliser les services publics qui ont aujourd'hui été pour partie privatisés. Reprenons les transports, l'entreprise qui dirige les transports s'appelle Keolis, c'est une multinationale. Est-ce bien nécessaire d'avoir une multinationale à la tête des transports urbains en juin ?
Combien de postes est-ce que vous pensez pouvoir créer avec les économies que vous venez de citer ?
Écoutez, je ne situe pas ça en nombre de postes en tant que tel pour donner des annonces qui ensuite ne pourraient pas être réalisées. Il s'agit de regarder précisément là où sont les besoins. Hein. D'une part, résorber l'emploi précaire. J'entendais tout à l'heure là, une des personnes qui était interviewée indiquer que c'était pas forcément nécessaire d'avoir de l'emploi public. Ben écoutez, c'est une erreur, parce que l'emploi public, justement, c'est le service public. Donc, il faut regarder l'ensemble des services publics de manière à ce qu'ils puissent fonctionner correctement.
Donc ça suffirait pour les 33 000 étudiants angevins à trouver un emploi à la sortie de leurs études. Est-ce que ce serait pas mieux de développer les pôles de compétitivité ?
Alors, c'est bon. Les 33 000 étudiants angevins n'ont pas vocation à devenir tous salariés du service public sur Angers, d'abord. Hein. Donc, relativisons les choses, le maire et la municipalité ne sont pas en tant que tels responsables directement de l'emploi à la sortie des études de l'ensemble des étudiants. Donc, à un moment donné, vous me parlez de pôle de compétitivité. Qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité ? Est-ce que le service public, c'est pas la compétitivité au service des citoyens ? Donc voilà ma réponse.
Justement, un pôle de compétitivité, c'est un endroit où se réunissent les grandes universités, les entreprises, etc., pour favoriser des synergies, en quelque sorte, entre les différents pôles, quoi.
Oui, mais la création d'entreprises n'est pas déterminée par, en tant que telle, des municipalités. La création d'une entreprise, elle est liée au fait qu'il y a, à un moment donné, un marché. Pour qu'il y ait un marché, il faut aussi qu'il y ait des gens qui achètent. Pour qu'il y ait des gens qui achètent, faut-il encore qu'ils aient de vrais salaires, leur permettant d'acheter. En soulé, c'est toute la différence entre la politique de la demande et la politique de l'offre.
Et alors, comment vous ferez pour favoriser l'installation de nouvelles entreprises à Angers, pour attirer ?
Ah, je sais d'avance ce que nous ne ferions pas. C'est-à-dire qu'en aucun cas, nous n'abonderions les subventions diverses aux entreprises, soi-disant pour créer des emplois, dans le cadre, par exemple, de zones franches, multiplication de zones franches, ou tout simplement en développant des pépinières d'entreprises pour donner à bon marché des locaux à ces entreprises. Pourquoi ? Parce que cette politique a démontré son échec. Aujourd'hui, le taux de chômage sur Angers est légèrement supérieur au taux national. Et pourtant, depuis des années et des années, cette politique d'aide aux entreprises est mise en œuvre. Angers-Loire Développement, qui est donc une agence qui a été mise en place par la municipalité Beatz, Eh bien, Antonini Beat, cette agence se vante d'être la deuxième au niveau national, 126 000 hectares de pépinières d'entreprise, de nombreux locaux, etc. Et de fait, cette politique ne suffit absolument pas pour régler le problème de l'emploi. Le problème de l'emploi est un problème national. Faut être très honnête, c'est pas le maire d'Angers, ni le maire de Segré, ni le maire de Cornet qui vont régler le problème. Ou alors, il se situe dans une logique de concurrence entre territoires. Et ça, c'est justement une politique qui est aujourd'hui mise en œuvre. Et le sens du deuxième terme de notre liste pour la République signifie que pour nous, justement, il n'existe qu'un seul territoire. C'est le territoire national dans lequel tout le monde est à la même enseigne. La loi est la même pour tous, avec les mêmes droits.
Donc vous n'avez pas de solution au niveau local à apporter pour l'emploi?
Il n'y a pas de solution miracle, je pense. Personne ne pourrait vous dire ça.
Pierre-Antoine, une question sur l'orientation, peut-être.
Oui, donc, Bernard II, vous souhaitez mettre en place de nouveaux moyens pour l'orientation des jeunes. Bon, déjà, à Angers, on a déjà le Centre d'information jeunesse, le Service universitaire d'information et d'orientation, et encore le Centre d'information et d'orientation. Est-ce que il est nécessaire d'avoir encore un autre centre à Angers?
Bon, je sais pas où vous avez vu que je voulais mettre en place un autre centre.
Sur votre blog, uberlardeux.com.
Oui.
Où vous dites que vous voulez œuvrer pour l'orientation.
Voilà, oui, tout à fait. Œuvrer pour l'orientation à un moment donné des étudiants, c'est faire en sorte qu'effectivement ils aient l'ensemble des informations nécessaires pour à la fois choisir leur voie dans leurs études et à un moment donné toutes les facilités pour être au contact des différentes offres d'emploi qui peuvent exister. Mais pour le reste, si vous voulez, il n'y a pas à un moment donné de mise en concurrence des différents organismes qui existent aujourd'hui et qui en quelque sorte, bon, se suffisent à eux-mêmes dans la situation actuelle.
Donc vous allez vous baser sur les projets déjà existants?
Oui, sur les structures existantes, oui. Il ne s'agit pas de casser tout.
Sur le chapitre du tramway que vous évoquiez tout à l'heure, vous souhaitez un tramway municipal et entièrement gratuit. C'est l'objet de notre deuxième micro-trottoir.
Okay. Sous certaines conditions, oui. Bah pour les bas revenus, ceux qui, et pour ceux qui désirent aussi ne pas prendre la voiture volontairement, pour préserver l'environnement, je sais pas.
Ça me paraît un peu difficile, parce que les travaux mis en place pour les transports urbains sont assez onéreux, et donc il faut en contrepartie que les gens contribuent à ces travaux.
Alors, il y a une des personnes interrogées qui proposait de simplement mettre en place la gratuité pour les personnes qui, effectivement, avaient des bas revenus. Est-ce que ça suffirait pas, Hubert Lardeux?
Alors, lorsque nous disons des transports en commun gratuits, d'ailleurs, c'est pas seulement le tramway, c'est l'ensemble des transports en commun. Et cela ne se situe pas dans le cadre d'une politique sociale en tant que telle, c'est-à-dire pour aider, par exemple, des personnes qui seraient en difficulté. Nous pensons d'ailleurs que le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale pour tout ce qui concerne l'aide sociale aux personnes en difficulté, remplit son rôle et il doit être renforcé. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Lorsque nous disons gratuité des transports, ce n'est pas une politique électoraliste. C'est-à-dire que nous pensons qu'il est nécessaire, effectivement, de développer les transports en commun et l'utilisation des transports en commun sur Angers. Mais pas seulement sur Angers, c'est vrai dans toutes les villes. Et donc, à un moment donné, pour permettre cette utilisation, c'est-à-dire pour convaincre les citoyens d'utiliser les transports en commun et donc délaisser la voiture, plutôt que de les contraindre en faisant en sorte que les voitures ne puissent plus rentrer dans le centre-ville, voire diminuer la capacité des voies sur berge, nous pensons qu'il faut effectivement d'abord permettre aux Angevins de se saisir de ces transports en commun. Et c'est pour ça que la gratuité, à un moment donné, est importante. D'ailleurs, on le voit dans les quelques villes qui ont mis en place cette politique, le développement de la fréquentation des transports en commun était considérable.
Et comment est-ce qu'on finance ça?
Eh bien, écoutez, on le finance sur les fonds publics, sur les fonds municipaux. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on fait effectivement des choix. Et par exemple, sur Rive Nouvelle, ces dépenses de marketing considérables peuvent être largement utilisées pour favoriser le développement des transports en commun et leur gratuité.
Hubert Lardeux, vous proposez de sortir Angers, d'Angers-Loire Métropole, la communauté d'agglomération. Mais Angers-Loire Métropole, c'est plusieurs compétences qui touchent directement la vie des Angevins. Je cite le tramway, bien sûr, mais aussi le développement économique, l'enseignement, la formation, la recherche, la collecte des déchets, tout ça. En termes de budget, on fait comment si on sort de la communauté d'agglomération?
Alors, les communautés d'agglomération, il faut reprendre un petit peu d'où ça vient. C'est une politique qui a été menée de manière forcée. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé le choix aux communes. Le principe démocratique, c'est pour les communes, c'est la libre administration des communes. Ce qui signifie qu'elles doivent pouvoir s'associer librement. Donc, pendant toute une époque, on a eu ce qu'on appelait les syndicats intercommunaux à vocation multiple ou à vocation déterminée, que ce soit sur la gestion des déchets, etc. Et donc, nous sommes pour cela. Nous sommes pour la libre administration des communes et la libre coopération entre les communes. Ce qui signifie autre chose qu'une communauté d'agglomération où, par définition, c'est la ville phare qui dirige et, en quelque sorte, il y a les seigneurs et ses vassaux. Et donc c'est une politique qui est aujourd'hui va être développée encore plus dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, qui justement détricote la République au profit de territoires et donne des compétences nouvelles à la fois aux régions et aux pays, du style le pays d'Angers qui regrouperait 32 à 33 communes.
Donc parmi les compétences d'Angers, Loire, Métropole, il y a d'ailleurs l'environnement. Est-ce que c'est une de vos priorités au Parti ouvrier indépendant ?
Bon, alors, d'une part, je voudrais préciser une petite chose que j'ai oublié de faire avant. C'est pas le Parti ouvrier indépendant en tant que tel qui présente une liste, puisque c'est une liste ouverte qui regroupe, y compris des militants du Front de Gauche, enfin du Parti de Gauche, pardon, des militants syndicalistes et des gens sans étiquette politique qui ne sont adhérents d'aucun parti. Donc, pour revenir à votre question sur l'environnement. Écoutez, je pense que déjà, notre souci, en indiquant que nous sommes pour développer des transports en commun gratuits, pour donc favoriser l'utilisation des transports en commun plutôt que l'utilisation de la voiture, c'est déjà une bonne réponse à la question de l'environnement.
On va marquer une pause musicale, Hubert Lardeux, avec un groupe angevin, un groupe local. Je ne vous dis pas de qui il s'agit, je vous laisse la surprise.
Standing on a chessboard, it's beating like a drum. Thinking about your next move, but you ain't got no plan. 'Cause life is what you make it, you gotta think twice. There's so much to explore. You gotta stand up and walk around. See what's going on the other side. Stand up and walk around. See what's going on the other side.
Est-ce que vous avez deviné de qui il s'agissait ?
Eh non, je donne ma langue au chat.
Scarlett, Checkmate, ça vous dit quelque chose, Scarlett ?
Pas du tout, mais c'est très plaisant, écoutez.
Est-ce que vous vous intéressez à la vie culturelle locale, aux groupes locaux ?
Je m'intéresse à la vie culturelle locale, mais à vrai dire, pour ce qui concerne la musique et les groupes locaux, je ne m'y connais pas beaucoup.
D'accord. Pierre-Antoine.
Alors, vous avez déclaré à Angers Mag que seuls les projets qui servent l'intérêt de la grande majorité avec un caractère d'urgence souligné méritent examen. En termes d'investissement, vous rejoignez un peu la ligne de Laurent Géraud de l'UDI et qui veut reporter l'investissement de loisirs, c'est ça ?
Alors, l'investissement pour les projets dignes d'intérêt et urgents, il est lié en termes de choix aux possibilités. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de la réduction des dotations subventions de l'État, il faut à un moment donné choisir même si j'indique qu'aujourd'hui je suis pour rompre avec cette politique, personne ne me croira si je vous dis que dans 8 jours, ça sera réglé. Donc dans un premier temps, il s'agit de faire avec ce qu'il y a, et donc de choisir véritablement quels sont les investissements à faire, effectivement, pour ceux qui vont à l'ensemble, à la plus grande majorité.
Donc on attend pour les investissements de loisirs ?
Pas forcément, mais il me semble que du point de vue des loisirs sur Angers, il y a déjà pas mal de choses qui existent.
Alors, dans votre programme, vous expliquez être pour l'accès à tous à la culture et au sport.
Bah, ça fait partie de, comme les entreprises, en fait, le sport, le loisir, aide au développement de la ville, à la reconnaissance, et il faut aussi essayer de le développer. Est-ce que c'est possible ou pas, je ne sais pas, comme dans des temps difficiles, mais je pense qu'il faut, comme Angers, c'est une ville assez sportive et tout, donc je pense qu'il faut aller dans ce sens-là.
Enfin, c'est toujours important, la culture, le sport, que les personnes qui n'ont pas forcément les moyens puissent faire du sport, apprendre des choses. Ça, c'est important de développer, toujours.
C'est important. Bah, déjà, enfin, les étudiants ont déjà pas mal de choses, mais après, ce serait plus pour les autres gens qui ne sont pas étudiants.
Alors, ce serait pour qui exactement ? Ce serait pour les publics défavorisés, cet accès Vous dites pour tous ?
Pour tous, oui. Donc, pour tous, c'est pas seulement pour un public, mais de fait, il existe d'ores et déjà aujourd'hui une offre assez importante pour ce qui concerne en tout cas le sport. Hein. Pour ce qui concerne d'ailleurs les étudiants, le SWAPS joue un rôle extrêmement important qu'il convient d'aider à renforcer. Mais l'ensemble, quand on dit pour tous, c'est d'abord, on pense non pas en tant que tel à favoriser, à investir pour des équipes professionnelles, même s'il y a un lien direct entre le fait, à un moment donné, la pratique individuelle et l'existence ou non d'équipes professionnelles, mais il s'agit d'abord de développer et de permettre justement à tous de pratiquer les sports qu'ils ont envie de faire, et donc d'en découvrir. Et donc, de ce point de vue-là, il faut poursuivre, amplifier à un moment donné la possibilité, à travers des structures, le développement de stades, etc., de salles, mais qui existent déjà de manière assez importante sur Angers, et leur permettre en tout cas à l'ensemble de ceux qui ne sont pas des professionnels de pouvoir pratiquer leur sport. Pour ce qui concerne l'accès à la culture d'une manière générale, je disais hier soir, puisque nous avions un débat avec la Fédé angevine, de fait, nous étions quelques candidats l'autre fois à l'Assemblée Générale des intermittents du spectacle et qui protestent donc contre la volonté du MEDEF de remettre en cause leur régime indemnitaire des intermittents du spectacle. Le problème qui se pose notamment pour ces salariés, c'est qu'ils sont vraiment intermittents. S'il y a des contrats précaires, c'est bien les leurs. Alors qu'il y aurait la possibilité de développer sur Angers une structure permanente, notamment pour ce qui concerne les techniciens du spectacle, qui pourraient être embauchés en CDI, structure qui servira de support pour aider justement à la mise en œuvre de l'ensemble d'autres activités culturelles, telles des spectacles, etc.
Donc ça fait partie de vos projets.
Oui, tout à fait. Oui.
Mettre en place une structure pour que les techniciens du spectacle, ceux qui sont aujourd'hui intermittents, puissent être
aussi. Ceux qui sont en contrat précaire puissent trouver à travers un CDI, justement, quelque chose qui leur permette de vivre décemment de leur art et en même temps servir de point d'appui au développement des spectacles.
Vous avez d'autres projets en termes d'événements culturels ?
J'ai pas de catalogue comme d'autres de différentes structures particulières. Non, je crois qu'à chaque chose suffit sa peine.
Qu'est-ce que vous pensez des événements existants ? Déjà, Temporive, on peut citer Temporive, Premier Plan, les Accroche-Cœurs.
Oui, tout à fait. Ben, ce sont des choses auxquelles je participe et je, comme beaucoup d'Angevins, je pense qu'ils apprécient l'ensemble de ces événements. Je pense qu'il y en a aujourd'hui une offre assez importante et qui se suffit elle-même sans doute sur Angers.
Pas d'autres projets donc culturels.
Non, je vais pas aller vous inventer des choses qui ne se réaliseraient pas forcément.
Rémi,
vous garderiez le taux d'investissement actuel en faveur des associations ? Actuellement, c'est le deuxième poste budgétaire avec 8,5 millions d'euros de dépenses.
En subvention, hein. c'est pas un investissement, ça, c'est de la subvention aux associations. Écoutez, le mode de tout temps, les municipalités ont à un moment donné soutenu les associations en leur versant des subventions. On verse des subventions sur la base d'un rapport comptable et sur la base de l'activité, d'un rapport d'activité des associations. Donc il n'y a aucune raison que cela ne se poursuive pas. Peut-être faudra-t-il revoir, selon certaines associations, de manière plus précise ce qu'on leur donne et pourquoi on leur donne. Mais en tout état de cause, il ne s'agit pas de remettre en cause une politique de subvention à un moment donné des associations.
Vous ne remettriez pas en cause les critères de justement distribution de ces subventions ?
Ouais, il y a un des critères qui sans doute serait appliqué de manière plus prégnante que d'autres, c'est celui de la laïcité de ces associations. Je pense qu'effectivement les fonds publics doivent aller au service public, doivent aller au public en tant que tel, et pour le reste ce sont des fonds privés qui doivent permettre à un moment donné des initiatives privées.
Vous pensez à quelles associations quand vous parlez de laïcité ?
Oh, écoutez, il y a de multiples associations qui se sont montées pour y compris siphonner justement un certain nombre de subventions. Je pense notamment aux écoles privées confessionnelles. Et de ce point de vue-là, ça demande à être regardé d'un peu plus près.
Vous avez d'autres exemples ?
Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait un peu compliqué. Mais de fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder plus près. Pour le reste, toutes les associations qui regroupent des citoyens qui, à un moment donné, sur un objectif précis, cherchent à développer telle ou telle pratique, ont naturellement droit à une subvention en fonction de leur capacité et de la manière dont elles sont appréciées par les citoyens.
Hubert Lardeux, on va conclure cette interview par un petit quiz. Hubert Lardeux, quel est votre quartier préféré à Angers ?
Le lac Domaine.
Combien de fois par semaine est-ce que vous prenez le tramway ?
Zéro.
Zéro. Votre groupe angevin préféré ?
Ah, alors, c'est un... je me rappelle même plus de son nom, il est passé au Chabada il y a longtemps, mais bon...
Il y en a beaucoup qui sont passés au
Chabada. Oui, mais je ne suis pas très doué en nom.
La dernière sortie culturelle que vous ayez faite ?
Je suis allé au cinéma, et il y a 8 jours, voir un film qui ne m'a pas plu, et dont je ne me rappelle plus le nom, mais je crois que c'était de Scorsese.
Votre bar favori à Angers ?
Alors, il se trouve rue des Poaliers, à l'angle.
La Civette ?
Voilà, c'est ça.
Question bonus, on sait déjà que vous ne donnerez pas de consigne de vote pour le deuxième tour. Vous tablez sur quel score pour le premier ?
Je n'en sais strictement rien, j'attends le résultat des sondages.
Il y en a déjà qui sont tombés ?
Oui, mais j'attends le prochain.
D'accord. Bon. Merci Hubert Lardeux d'avoir été notre invité pour cette deuxième semaine consacrée aux élections municipales et bon courage pour cette campagne.
Merci beaucoup, merci à vous.
Demain, nous recevrons Nathalie Sévaud dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, candidate sans étiquette, tête de liste d'Angers Vivre Mieux Naturellement. N'hésitez pas à lui poser des questions sur notre fil @campusangers. Oui, c'est bien ça, le fil avec le petit oiseau bleu. À tout de suite, on écoute de la musique, les Marquises avec les Maîtres Fous. mercredi sur deux, l'artichaut brosse l'actu culturelle angevine sur Radio Campus Angers. Loen Green y délivre son artefact et pose son micro dans les coulisses d'une expo. La semaine dernière, il était dans les coulisses de l'exposition Bar Shoes, organisée par Goop. L'expo a lieu au Bar du Quai pendant tout le mois de mars. Nous vous proposons ici la rediffusion de son reportage.
Artefact dans les coulisses de l'exposition Bar Shoes, qui réunit 6 artistes invités par l'association Goop au Bar du Quai tout le mois de mars. Vernissage le 6 à 20h30.
Il y a une expo, ok. Qui expose? Vous exposez quoi? Qu'est-ce que vous faites?
On expose tous.
Vous êtes combien?
Nous sommes 6. Moi c'est Pierre. Moi je veux parler de ma pièce hein, puisque.
Bah peut-être qu'avant de parler de ta pièce, on peut parler de l'ensemble. Tu vois, c'est quoi le projet
Le projet c'est que l'expo s'appelle Bar Shoes. Bar Shoes c'est un mot en patois angevin qui signifie en grande quantité. Et donc nous ce qu'on a décidé de faire c'est de ramener notre point de vue en quantité dans le bar du Quai. Voilà. Et à partir de là, on a tous une pièce qui est en rapport avec Bar Shoes.
Donc du coup, c'est des pièces que vous avez faites pour l'expo, vraiment?
Bah, elles sont toutes, en tout cas, en lien avec le lieu. Elles sont toutes contextuelles.
Ouais.
Elles se greffent au lieu. C'est pas anodin s'il y a un mannequin qui est accoudé au bar, et c'est pas anodin non plus s'il y a du tiercé qui passe sur une télévision. C'est parce que c'est lié aussi à cette ambiance du bar. Voilà.
Ok, du coup, vous avez fabriqué une espèce de PMU.
Certaines pièces créent un espèce de dialogue avec une ambiance PMU dans le bar du Quai, qui est un bar pas du tout ambiance PMU, mais plutôt lounge.
Ouais.
Donc voilà, c'est marqué un peu ce contraste-là, ce dialogue-là.
Et vous pouvez parler un peu des pièces que vous avez présentées?
Charles, il fait des cartes à gratter qui révèlent des bons à gagner, en fait, qu'il va falloir venir chercher plus tard. Quand, d'ailleurs, je ne sais pas vraiment comment son protocole fonctionne. Tu sais, Pierre, comment il va falloir récupérer les pièces? Ce sera sûrement indiqué sur les cartes à gratter. Et okay. Certaines pièces de l'exposition seront à gagner via ce jeu de cartes à gratter.
D'accord. Et ce sera les pièces qui sont exposées ou c'est autre chose? C'est des lots?
Il y a d'autres choses et il y a aussi des pièces.
Donc on peut gagner l'expo.
Qui seront exposées dans l'expo, qui seront à gagner aussi.
Ok. Et toi, du coup, tu présentes quoi comme pièce?
Alors, moi, j'ai investi les toilettes du bar du Théâtre du Quai en plaçant des appareils photo jetables dans les toilettes des filles et dans les toilettes des garçons. Ils sont fixés de telle manière à ce qu'on ne puisse pas partir avec, et c'est le spectateur, du coup, qui, en intégrant les toilettes, qui va créer lui-même une future pièce qui, je pense, fera... une édition.
Ok. Et ils visent quoi les appareils photo? Fixés sur les urinoirs?
Ils sont suffisamment movibles pour que eux puissent choisir le cadrage. Et c'est aussi du coup faire une espèce de rapport d'étude sur comment se comporte un homme aux toilettes avec un appareil photo et comment va se comporter une femme aux toilettes avec un appareil photo.
C'est un peu sociologique.
Voilà, un peu sociologique.
Ok. Et vous présentez quoi comme pièce?
Donc il y a une pièce aussi qui est en rapport avec le lieu directement. Donc c'est une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire de ce lieu-là. Donc en fait, on a réfléchi à le transformer en white cube. Donc aller à l'encontre de ce lieu-là. Et en faisant une critique du white cube directement. En le remodélisant et en plaçant ces pièces-là dans l'espace. Les pièces qui vont être présentes dans l'exposition au bar seront présentes dans la 3D, dans la modélisation, virtuellement en fait. Et moi j'intègre une pièce qui ne sera pas présente dans l'exposition, mais qui sera présente dans ces photographies de modélisation.
D'accord. Et c'est quoi
elle sera présente virtuellement.
Et c'est quoi cette pièce? Pourquoi est-ce que tu peux pas l'exposer directement dans le quai? Pourquoi t'as besoin du White Cube?
Parce que c'est une pièce qui serait parasitée par tout l'environnement du bar, et elle a besoin d'une espèce de présence d'aération pour exister. Et c'est un espèce de projet qui n'existe pas, qui j'aurais pas les moyens de la réaliser financièrement. Et en virtuellement, je peux la transformer. Voilà, c'est une pièce qui sera en or. Du coup, je peux imaginer tout virtuellement.
Ok.
Moi, je présente un mannequin qui sera en fait à disposer chaque jour d'une manière différente par les gens qui prennent leur service au bar du quai. Donc, okay. Ils disposeront le mannequin dans l'espace d'exposition comme bon leur semblera, chaque jour, d'une manière différente. Et voilà, ça c'est un peu pour rappeler l'ambiance PMU, pillé de bar, okay. À l'ancienne, et qu'on se marre tous un petit peu, quoi. Tu vois. Voilà. C'est simple que ça. Ah ouais, non, mais c'est fun hein, ce que je fais. Là, en l'occurrence, ça va être fun parce qu'il est marrant.
Il ressemble à quoi ce mannequin?
Et il ressemble à un mec un peu trop alcoolisé, quoi, qui se serait garé, quoi. Et puis, non, mais il est très drôle, tu verras.
D'accord.
L'artefact de Lohengrin que vous retrouvez dans l'Artichaut un mercredi sur deux avant de vous quitter. Voici l'agenda de votre soirée angevine. Il y a un concert de jazz manouche au Challenge à 20h30 et la fameuse soirée scène ouverte acoustique au T-Rock à 21h33. Oh, puis il y a aussi du foot. Ce soir, le Joker's Pub retransmet le match de Champions League PSG Leverkusen. Si ça vous plaît de voir les gens qui courent derrière un ballon. Il est l'heure de remettre les scaphandriers au placard. Aux manettes, ce soir, c'était Antoine et avec moi en studio, il y avait Pierre-Antoine. Vous pouvez nous réécouter demain dès 13h ou en podcast sur le site de la radio, le www.radiocampusangers.com. Tout de suite à 20h, vous retrouvez Pas de panique, l'émission geek de Radio Campus Angers. Salut Gatsou.
Salut Tiffaine.
Mais c'est pas ton vrai prénom?
Non, mes parents étaient quand même un peu plus sympas que ça.
Alors c'est quoi Pas de panique pour ceux qui débarquent?
Alors Pas de panique, c'est une émission de joueurs de jeux vidéo, et en fait on s'amuse à tester des jeux en tout genre et faire partager nos expériences vidéoludiques aux auditeurs et auditrices de Radio Campus. Et on s'amuse bien, c'est une heure de bonheur.
Une heure de bonheur, et ce soir elle sera consacrée à quoi?
Eh ben, ce soir, c'est une émission spéciale South Park. On l'a fait parce qu'il y a le dernier jeu South Park qui est sorti, le Bâton de la Vérité. Et c'est un pur jeu, on y a quasiment tous joué. Et on en dira plus tout à l'heure.
Dès 20h. Merci, 20h. Gatsou. Avant de vous quitter totalement, on vous laisse écouter la bulle sonore. Un lundi soir sur deux, l'équipe de Papyrus évoque l'actu littéraire et saupoudre tout ça de coups de cœur et d'extraits. Nous allons donc entendre un extrait du livre de Philippe Labro, On a tiré sur le président. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. On se retrouve demain à 19h. Très bonne soirée sur Campus. Allez, bisous.
C'est un extrait de Philippe Labro, On a tiré sur le président, ou pour les anglophiles, We shot the president. Il est sorti en 2013 et c'est un ouvrage qui relate les circonstances de la mort de John Kennedy, un événement qu'il a couvert en tant que journaliste. Le livre sort 50 ans après le drame, un hommage.
Et est-ce que tu peux nous situer un peu le passage?
Oui, bien sûr. Alors, faut vous mettre... mes amis, mettez-vous dans la peau de Philippe Labro. Dans le commissariat de police de Seattle, où est détenu Oswald, l'assassin de Kennedy. Lors d'une virée aux toilettes, Philippe Labro tombe sur deux rednecks, des Texans, des vrais. Et fasciné, il observe le spectacle.
Théo, je pense que maintenant on peut t'écouter.
Entre chaque commotion, au sein du couloir du troisième étage, il y a des pauses. Je me retrouve aux toilettes, pas très encombré. Peinture jaunâtre au mur... Odeur violente d'un désinfectant sans nuance qui balaie les effluves des cigares ou les Roland venus des urinoirs. Je retiendrai toujours cette séquence, merveilleuse dans son déroulement. Sur le coup, elle ne m'a pas fait rire, mais carrément subjugué. Voici deux détectives, en civil, beauté mais sans chapeau, tous deux cigares au bec, en train de pisser, l'un à côté de l'autre. On dirait des jumeaux. Même taille, même dégaine, même imperturbable sérieux, sur le visage bien rasé, satisfait. Même mâchoire carrée. Même coupe de cheveux sur des nuques de bovins, des cheveux noirs et luisants, comme Iné. Bien sapé, ces types. Je suis à leur côté, debout devant l'urinoir. Ils parlent à voix haute, sans se soucier de qui les écoute. Ils sont chez eux. Ils ont les yeux baissés sur leurs braguettes et montant leur twang à tonalité prononcée, forte, fleurie. Le premier. C'est un con, ce type, un sale con. L'autre répète presque mot pour mot. Un petit connard, oui. Un silence. Les deux flics semblent absorbés dans la contemplation de la trajectoire de leur urine, autant que plongés dans la profondeur de leur pensée. Le second reprend. Mortel connard quand même. Mortel le petit enfant de putain. Le premier, au bout d'un bref silence. Quand même. Ensuite, ensemble, dans un mouvement presque harmonieux, on dirait qu'ils l'ont répété, ce numéro de duettiste, ils reculent, rezipent leurs braguettes, pivotent, vont se laver les poignes au lavabo, de faïence ébréchée, jettent un coup d'œil circulaire et négligé sur les quelques 4 ou 5 personnes qui se trouvent aussi dans les toilettes. Le premier homme, avant d'ouvrir la porte vers le couloir, décide soudain de revenir en arrière d'un demi-pas pour cracher un jet de salive prunie par la succion de son cigare. Puis il s'efface, laissant à son acolyte le soin d'effectuer le même jet qui suit la même direction. Ils se regardent alors, semblant pleinement contents de la perfection de leurs actions. Ils n'ont pas raté le lavabo, ni l'un ni l'autre. Aucune éclaboussure. Je me dis aujourd'hui que seul le cinéaste Quentin Tarantino saurait recréer cet instant avec authenticité.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.